se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir à tous, minuit vient de passer et je suis heureux de vous retrouver sur RMC dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco sur que vous retrouvez sur RMC. En ce mois d'août, qui est le mois des vacances, je vous propose de voyager. Et ce soir, je vais vous inviter à partir à la découverte des reliques. Les reliques qui sont encore de nos jours conservées dans certaines villes et villages de France et aussi à l'étranger, et que au fil des siècles ont contribué à créer et à grandir le prestige des villes qui les abritaient. Pour en parler, je reçois ce soir Muriel Gaude-Ferragu, historienne, maître de conférence à l'université de Paris 13 Sorbonne Paris Cité et membre junior de l'Institut universitaire de France. Bonsoir Muriel Gaude-Ferragu.
Bonsoir.
Je rappelle qu'au mois d'avril 2022, vous avez publié chez Perrin votre dernier ouvrage dont le titre est « Les trésors des rois, sacrés et royauté, des rois maudites aux princes de la Renaissance ». Et dans votre livre, vous indiquez que pour les premiers rois, l'acquisition des reliques n'était pas une évidence car, je cite, « l'idée même d'accumulation interne dans un trésor qui serait personnel au souverain n'allait pas de soi ». Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y a eu un changement de pas à un certain moment?
Alors, tout à fait, il y a eu un grand changement en réalité, puisque longtemps, quand les rois acquéraient des reliques, à chaque fois, ils les redonnaient à leurs églises, à leurs sanctuaires, pour lesquels ils avaient une grande dévotion. Et le grand changement, c'est qu'à partir en fait, du XIIIe siècle, et notamment sous le règne de Saint-Louis, eh bien, plutôt que de redonner, de redistribuer ces reliques aux églises, eh bien, on préfère les garder avec soi au sein de son palais. Et bien évidemment, c'est le cas de Saint-Louis, puisque quand il achète les reliques de la Passion à l'empereur Baudouin II de Constantinople, eh bien, plutôt que les donner, par exemple, à l'abbaye de Saint-Denis, ce qui se faisait d'habitude, là, il les garde au sein de son palais, le palais de la cité, le palais royal. Et il décide du coup de faire construire cette magnifique sainte chapelle que l'on connaît et que l'on visite encore aujourd'hui avec ses superbes vitraux.
Et donc les rois, ils ont commencé un peu à privatiser ces objets de dévotion qui sont les reliques.
Alors les reliques font maintenant partie donc de leur trésor personnel, de leur trésor privé. Non seulement il va y avoir ces reliques donc à la sainte chapelle. Dont ils peuvent se servir. Hein. Ils vont redistribuer, bien évidemment, des épines de la couronne d'épines. Ils vont redistribuer aussi des fragments de la vraie croix et d'autres saintes reliques de la Sainte Chapelle. Mais surtout, ils vont petit à petit constituer un trésor qui leur est propre. Constituer, donc, par exemple, le roi Charles V, c'est un roi valois qui a régné au XIVe siècle, possédait environ 200 reliques et reliquaires. Et il les avait près de lui, dans ses châteaux. Il pouvait aussi en emmener certains dans des coffres lors de ses déplacements, puisque les rois sont itinérants encore au Moyen-Âge. Et ces reliques, donc, font partie de leur trésor propre.
Et qui a contribué de façon déterminante à, comment dire, booster le rôle des reliques, la fonction des reliques?
Les reliques ont, dès le début du christianisme, eu un rôle déterminant, hein, vraiment de protection, un rôle aussi de guérison. Elles sont thaumaturges et on sait bien l'importance des pèlerinages dès le début du christianisme. Là, le grand changement, et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, c'est que les rois sont protégés au sein même donc de leur trésor. Et ce qui va booster, hein, vraiment ce trésor personnel, c'est que les reliques font en fait partie d'un ensemble bien plus vaste, Hein, c'est ce que l'on appelle les biens meubles du roi, donc son trésor. Et les reliques donc font partie de ses joyaux, de la vaisselle de table, des manuscrits, des tapisseries, de tout ce qui constitue la richesse en fait du roi, son patrimoine meuble. Et donc les reliques servent, certes, ont un rôle religieux bien évidemment, mais elles servent aussi le prestige, la puissance du roi, au même titre que les autres objets de son trésor. Alors au même titre, mais un peu plus quand même, parce que bien évidemment, le roi de France, comme il est le seul à posséder donc ces reliques qui sont les plus importantes, les plus prestigieuses de toute la chrétienté, donc les reliques de la Passion du Christ, hein, il est vraiment le trésorier du Christ, et ça tout le monde le sait, les souverains, mais la population également, et donc ça lui donne un titre plus prestigieux, et donc le roi de France, il y a vraiment une surenchère, il y a vraiment une volonté d'accumuler le maximum de reliques, ça se sait, et ça fait partie du prestige du roi.
C'était un peu comme la constitution d'une banque des reliques, finalement, on pourrait dire ça.
Oui, il s'agit de posséder, alors j'ai aussi étudié la mémoire en fait des saints, hein, les reliquaires servent à honorer bien évidemment des reliques, donc des ossements d'un certain nombre de saints, pas seulement les reliques de la Passion, donc on a toute une série de saints, et en étudiant ces différents saints et leurs mémoires, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de posséder finalement l'ensemble des saints de la chrétienté, c'est-à-dire une mémoire qui est vraiment universelle. Il n'y a pas seulement les saints du royaume de France, donc on peut penser par exemple à Saint-Rémy, à Saint-Denis, à Saint-Louis, etc., etc. Il s'agit de posséder donc tous les saints universels, des apôtres comme des évangélistes, comme des saintes femmes, etc., etc.
C'est un peu ce qui s'est passé surtout dans les siècles suivants au Vatican en fait, parce que après il y a collection de reliques qui sont conservées au Vatican.
Tout à fait. Il s'agit vraiment de collectionner le maximum de reliques. Et d'ailleurs, le pape faisait exactement la même chose au même moment, voire un peu avant, hein, le Sancta Sanctorum. Donc, on a vraiment toute cette collection de reliques. Et c'est vrai aussi des autres souverains. Il faut vraiment voir que c'est un phénomène européen. Moi, j'ai étudié le Royaume de France, mais c'est un phénomène européen. Et on peut penser aussi au Saint-Empereur romain germanique, puisque le célèbre empereur de Prague, Charles IV, a voulu aussi accumuler un maximum de reliques. Et quand il fait construire son château à côté de Prague, donc à Karlstein, là encore, il y a une sainte chapelle exceptionnelle avec des logettes et les portraits des différents saints qui sont dans ces logettes, hein, dont les reliques sont dans ces logettes. Donc on a vraiment ici un phénomène européen, une surenchère en fait, dans la possession de ces reliques, un véritable trésor.
Et vous pensez que, comme justement les rois ont fait appel aux meilleurs artisans de l'époque pour réaliser des reliquaires ou des monuments pour abriter les reliques, est-ce que cette démarche de la part des rois a peut-être favorisé le développement de nouveaux styles artistiques ou de nouveautés techniques pour l'époque?
Alors les reliques sont enchâssées dans de magnifiques reliquaires, dont on a un certain nombre d'exemples encore dans le musée, et ces reliquaires sont façonnés par les meilleurs orfèvres du temps. Alors pour le trésor des rois que j'ai pu étudier, le grand marché de l'art se situe à Paris, et on a des centaines d'orfèvres qui travaillent, alors certains sont plus connus que d'autres, et le roi, mais comme les princes également, s'adresse donc à ces orfèvres qui vont inventer en effet des techniques. Alors c'est vrai pour les reliquaires, mais c'est vrai aussi pour d'autres objets, toujours pareil, du trésor. Hein. Le service de table, notamment, ces célèbres nefs que l'on mettait, hein, sur les tables des princes, c'est exactement la même chose. Ce sont des objets qui sont en or, en argent doré, sertis de pierres précieuses, de perles. Et la grande nouveauté aux alentours, à la fin du XIVe siècle, ce sont ces émaux translucides en ronde bosse, qui vont être rouges, bleus, etc., et qui permettent de façonner des personnages qui composent de véritables scènes. Et je pense ici à ce que l'on appelle le cheval d'or, c'est un cadeau de la reine Isabeau de Bavière à son mari Charles VI en 1405. Et ce cheval d'or, c'est vraiment une magnifique scène sur trois étages avec le roi en prière devant la Vierge qui est elle-même couronnée par des anges. Et en dessous, vous avez un cheval en or et ça fait partie des plus belles pièces d'orfèvrerie qui subsistent pour les années 1400. Donc ce sont vraiment des chefs-d'œuvre et chaque roi, chaque prince fait appel aux meilleurs orfèvres pour obtenir ces chefs-d'œuvre.
Et vous avez parlé d'une reine, Isabeau de Bavière, et effectivement, parmi les commanditaires, on comptait un certain nombre de reines qui avaient des différents statuts. Est-ce qu'on peut dire que ces reliques ont eu aussi un rôle dans l'émancipation des reines, ou en tout cas des femmes de pouvoir de l'époque? D'ailleurs, on avait une espèce aussi de panthéon féminin, si j'ai bien compris en lisant votre livre.
Alors tout à fait, quand on étudie le trésor des rois, on ne peut que s'émerveiller devant les reliquaires que les reines ont pu commander. Parce qu'en réalité, les reines sont à ce moment-là de grands mécènes. Hein, c'est vrai qu'on connaît moins bien leurs noms. Donc là j'ai cité Isabeau de Bavière, mais il y a toute une série de grandes reines qui toutes commandent ces reliquaires. Et en réalité, quand on est aujourd'hui dans les musées, la plupart de ces magnifiques pièces qui subsistent sont en réalité des commandes de souveraines parce qu'elles ont été moins fondues que celles en fait des souverains. Et donc ce sont des grandes commanditaires et effectivement, là encore, on est au cœur même de leur pouvoir parce que vous savez que les femmes en France ont été exclues de la couronne de France, hein, c'est la célèbre loi salique, et donc elles ne peuvent être reines régnantes. Et donc leur pouvoir se déplace ailleurs. Et ce pouvoir, en l'occurrence, c'est aussi celui de la commande, du mécénat, dans les arts, dans les lettres, mais également, en ce qui concerne les reliquaires, elles possèdent au sein même de leur trésor personnel, là encore, des reliques de la Passion et d'autres reliques, hein, bien d'autres reliques. Vous avez parlé d'un panthéon féminin, il est vrai que toutes les reines possèdent, par exemple, des reliques de Sainte Marguerite, qui aide les femmes en couche, mais également de Sainte Élisabeth, bien évidemment de la Vierge Marie. Et donc, on a un espèce de panthéon, hein, une cour céleste aussi qui est féminine au sein de ces trésors des reines de France.
Et encore de nos jours, il y a des reliques qui sont conservées dans plusieurs églises, plusieurs endroits en France, à l'étranger, mais le regard sur ces objets a changé. Quand il a changé? Est-ce que vous avez étudié aussi ce changement de point de vue?
Alors, il a changé, c'est-à-dire que bien évidemment, au XVIe siècle, avec le protestantisme, le concile avec Calvin, qui écrit ce célèbre livre où il critique justement les reliques et le culte qu'on leur voue, bien évidemment, après, au contraire, le Concile de Trente remet en valeur ces reliquaires. Et donc, le regard a changé, oui et non, parce qu'on sait bien encore aujourd'hui à quel point les reliques et les écrins qui les enchâssent dans un certain nombre d'églises attirent encore de très nombreux pèlerins.
Hein, disons qu'on a perdu peut-être ce côté superstitieux. De l'usage des reliques?
Alors, je ne sais pas, parce que pour un certain nombre de fidèles, de se rendre en pèlerinage, que ce soit à Saint-Jacques, que ce soit touché encore, quand on voit à Saint-Pierre de Rome la dévotion des fidèles qui vont toucher le pied de Saint-Pierre, on a encore cette intention d'avoir ces miracles, cette guérison liée quand même aux reliques. Et donc... les pèlerinages sont quand même encore très importants aujourd'hui. Hein. Tellement de personnes se rendent en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de critiques, mais ça reste très très vivant, hein, ces pèlerinages.
Oui, disons que le regard qui porte l'Église sur les reliques, naturellement, est supporté par la présence de la foi de la personne qui effectue un pèlerinage ou va effectivement vénérer des reliques.
Bien évidemment, c'est la foi qui pousse les gens sur les... On parle d'ailleurs des chemins de la foi, tout simplement. Effectivement, pour certains, ce sont des superstitions, et puis pour d'autres, au contraire, ils sont sur le chemin de la foi.
Et j'ai une dernière question. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'étais curieux de savoir si vous pouviez nous donner un peu vos reliques préférées. Si vous pouviez faire un top 3, disons, des reliques préférées à visiter peut-être cet été, si on veut voyager en France ou à l'étranger.
Alors, plus que de reliques, en réalité, une relique ne vaut rien si elle n'est pas enchâssée dans ces reliquaires dont mm-hmm. je vous parlais. L'un de mes reliquaires, je pense qu'il faut, si on est en France en tout cas et qu'on voyage, mm-hmm. Se rendre à Paris et notamment au musée du Louvre. Vous avez une collection d'objets d'art avec un certain nombre de reliquaires qui sont présentés, et notamment en plein centre de cette salle. Vous avez une merveilleuse Vierge à l'enfant qui a été commandée justement par une reine de France qui s'appelle Jeanne d'Évreux. Et c'est une Vierge absolument somptueuse en argent doré avec une fleur de lys en cristal. Et les reliques de la Vierge se trouvaient à l'intérieur de cette fleur de lys. Et tout est en finesse, vraiment avec un décor remarquable. Donc je dirais pour Paris d'aller voir cette Vierge à l'enfant. Je parlais tout à l'heure c'est en Bavière, donc ça nous fait encore voyager, ce fameux cheval d'or et cette commande d'Isabeau de Bavière pour son mari. Là, c'est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie. Et puis, si on est en Italie, eh bien, on peut se rendre à Florence ou dans le musée qui dépend du trésor de la cathédrale, on a ce qu'on appelle le libretto. C'est un petit livret que possédait un prince qui s'appelle Louis Ier d'Anjou, et vous savez qu'il a tenté de conquérir le royaume de Naples et de Sicile. Il a perdu lors d'une bataille son reliquaire, et ce reliquaire contenait un échantillonnage de toutes les reliques de la Passion qui se trouvaient à la Sainte-Chapelle de Paris. Et là aussi, c'est très fin, des objets qui sont magnifiques.
Et vous pensez que, pour conclure, si Paris, si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce aux reliques ?
Alors disons que la France, en tout cas au Moyen-Âge, était vraiment très connue parce qu'il y avait cette Sainte Chapelle et ces fameuses reliques de la Passion. Et c'est vrai que ça a joué un rôle très important dans l'aura, le charisme des rois de France. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui ça a toujours un rôle ? Je ne sais pas, mais quand on voit la foule qui se précipite encore aujourd'hui, la queue qu'il y a pour visiter la Sainte-Chapelle, on se dit que c'est vraiment un des monuments cultes clés du patrimoine encore français aujourd'hui.
Je vous remercie Muriel Gaud-Ferragu et je rappelle qu'en 2014, vous avez reçu le prix de la Dame à la Licorne. Je remercie aussi tous les auditeurs de cette émission et je vous donne rendez-vous à samedi prochain à minuit après le after. Et je vous rappelle aussi que cette émission peut être réécoutée en podcast ou bien vous pouvez la retrouver sur le site et sur l'app de RMC. Et je vous laisse avec la programmation de la nuit de RMC et je vous donne justement rendez-vous à samedi prochain.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.